5, 4, 3, 2, unité. Top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette auberge espagnole. On parlera des plantes, un entretien avec Francis Allais, botaniste et biologiste, homme et plantes, l'anthropocentrisme à la vie dure. Et puis Claude-Lise Cabrol du collectif Gaz de Schiste Non Merci, collectif Littoral, nous parlera des diverses réunions qui s'organisent, notamment ce vendredi 11 janvier à 19h à la salle de l'abbatiale de Saint-Chinian en présence du sénateur Robert Tropeano. Avec Francis Allais, on parlera de botanique, on parlera des arbres car l'espèce humaine a tendance à se comporter un petit peu comme à une certaine époque où on pensait que le soleil tournait autour de la Terre, une espèce d'anthropocentrisme qui a la vie dure et qui nous fait souvent croire que les plantes sont moins évoluées que nous. On démontrera le contraire tout à l'heure. On écoute Fanga avec Noble Tree, un titre qui coulait de source. Francis Allais.
Bonjour.
Alors merci d'être venu dans les studios de Divergence. Vous êtes botaniste et biologiste. Vous signez une préface sur le dossier de la revue Pour la Science octobre-décembre 2012, un dossier consacré aux végétaux insolites. Et ce que j'ai bien aimé dans cette préface, c'est que vous revenez un petit peu sur l'anthropocentrisme, c'est-à-dire cette façon qu'ont les humains toujours de se considérer comme sortant de la cuisse de Jupiter ou d'Apollon ou de je ne sais quelle divinité, et de se placer au centre de l'univers. Alors on l'a vu il y a quelques siècles de ça, où on pensait que c'était le Soleil, lui, qui nous tournait autour, bien évidemment, car nous étions si divins. D'ailleurs, vous revenez aussi sur cette notion d'essence divine de l'humanité. Et vous êtes un spécialiste des plantes, et vous soulignez le fait que on a tort de se considérer nous-mêmes comme étant plus évolués que les plantes, peut-être parce que, pour démarrer, peut-être parce que finalement on participe finalement du même écosystème. Donc au titre de quoi nous considérerions-nous finalement plus évolués?
Je voudrais dire que c'est typique de la démarche scientifique qu'elle porte des coups à l'anthropocentrisme. Ça, c'est vraiment très, très ancien dans notre civilisation. Alors, vous avez effectivement rappelé la révolution copernicienne, la Terre remise à sa place alors qu'elle était au centre du monde. Il faudrait parler de la révolution de Lamarck et Darwin. Nous étions, avant eux, nous étions une création particulière d'un être divin. Et puis, après eux, on est simplement le produit d'une évolution animale et nous appartenons au groupe des animaux. Moi, je trouve ça extraordinairement salutaire. Je crois que tant qu'on se regarde le nombril, on ne fait rien de bon, on ne comprend rien. Alors, les plantes apportent de l'eau à ce moulin-là, c'est ça qui m'intéresse.
Et justement,
dans ce numéro de Pour la Science, là, il y a un article qui m'a beaucoup intéressé. C'est celui auquel a collaboré mon collègue Doyle Mackey. C'est un Américain du Texas qui travaille à Montpellier depuis 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Et il dit qu'il est constant chez l'homme de se considérer comme très supérieur aux autres animaux et bien entendu aux plantes. Et puis lui, il n'est pas d'accord. Il dit qu'à mesure que les découvertes s'accumulent sur les plantes, on s'aperçoit qu'elles sont au moins aussi évoluées que nous. Donc ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup.
Oui, une évolution qui, on voit bien, on va dire la photosynthèse a démarré bien avant l'apparition de l'être humain. Donc, à ce titre, on peut considérer déjà qu'on est un petit peu les cadets de l'histoire.
Attendez, on ne fait pas la course. On ne fait pas la course entre les plantes et les animaux, c'est évident. Pour faire la course, il faudrait partir dans le même sens. Or, visiblement, on part dans des sens opposés. Mais attendez, je voudrais vous raconter une anecdote dont j'ai le souvenir tout récent. Il y a une vingtaine d'années, on a séquencé le génome humain. Vous vous souvenez sans doute de ça, 26 000 gènes. Waouh ! Ça nous paraissait superbe, nous le valions bien. Manque de bol, l'année d'après, on a séquencé le génome du riz, 50 000 gènes. Alors, il y a pas mal de biologistes qui se sont dit, c'est bête, on avait une règle très simple selon laquelle plus un être était évolué, plus il avait de gènes. On va être obligé d'abandonner ça. C'est dommage, c'était beau, ça. Puis en plus, ça nous convenait. Et à ce moment-là, Axel Kahn, un collègue de génétique humaine à Paris, il nous a dit, je me rappelle très très bien, ça j'oublierai jamais, il nous a dit non, n'abandonnez pas cette règle. Le riz est plus évolué que nous, et c'est pour ça qu'il a plus de gènes. Alors là, il y a eu aussi un mouvement dans l'auditoire. On a dit, mais explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Et il a eu ces paroles-là. Essayez de passer l'hiver le pied dans l'eau, froide, à vous nourrir exclusivement du pâle soleil hivernal et de quelques molécules de CO2 qui traînent par là. Mais vous n'y arriverez pas. Et vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas un équipement génétique suffisant. Le riz, lui, il l'a. Les plantes sont plus évoluées que nous. Je trouve que c'est très intéressant, ça. Alors, encore une fois, je le dis avec force, on ne fait pas la course, puisqu'on ne part pas dans le même sens. Mais je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'elles sont allées plus loin dans leur sens, dans le sens végétal, que nous dans le sens animal. Voilà.
Une humilité dont manifestement on ne sait pas vraiment faire preuve, à en juger par le mépris et la barbarie avec laquelle on traite la ressource en plantes sur la planète.
C'est monstrueux.
On pense aux déforestations massives.
C'est monstrueux. J'assiste à ça. Ça, c'est mon métier. Vous voyez, j'étais encore au Gabon le mois dernier. Les arbres tombent. Et si encore on les utilisait, il y aurait au moins une certaine logique. Mais dans la plupart des cas, ils tombent pour rien. Ils sont laissés sur place. Ils pourrissent. C'est scandaleux. Il y a une espèce de mépris, je dirais même une sorte de machisme. L'homme se réjouit de pouvoir détruire tout ça.
Mmh. Avec peut-être quelque part la bonne conscience qui est donnée par le fait qu'on s'imagine toujours que, ce qui est pas nécessairement faux, on s'imagine toujours que la nature s'en arrangera toujours, en quelque sorte.
Je crains que ça ne soit faux, parce que si on fait disparaître des espèces, vous savez que ça c'est définitif.
Si l'espèce humaine disparaissait, la nature...
Si l'espèce humaine disparaissait, je ne voudrais pas être discourtois pour qui que ce soit, mais la nature s'en porterait évidemment beaucoup mieux, que ce soit les plantes ou les animaux.
Alors justement, en parlant de l'impact de l'humanité sur la nature, il y a aussi dans ce numéro un article qui parle justement des propensions de certaines plantes à fixer. Alors on l'a vu suite à Tchernobyl, ils ont planté plein de plantes qui ont tendance à fixer les isotopes radioactifs dans leurs racines ou dans leurs fibres. Là aussi, il y a une sous-utilisation finalement de certains principes que les plantes appliquent, qu'elles utilisent. On parle même des plantes à sang chaud qui arrivent jusqu'à s'élever à une quarantaine de degrés au-dessus de la température environnante. Pour une de ces espèces canadiennes, le chou qui sent pas bon. On pourrait s'imaginer des tas d'applications issues de l'étude des plantes. On n'en voit pas la couleur dans les applications autour de nous. On continue, c'est pas demain la veille qu'on se dira, et si on se chauffait comme les plantes qui génèrent de la chaleur ?
On utilise déjà beaucoup les plantes, c'est certain. Mais je voudrais dire que c'est une véritable avalanche, les découvertes concernant les plantes, les nouvelles manières de les voir, de les percevoir, de les comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce numéro, qui sont d'un extrême intérêt. Ça, c'est réellement un scoop. En octobre dernier, on a appris que les Japonais, ça ne vous étonnera pas que ce soit les Japonais, travaillent sur la perception de l'arrivée des séismes par les arbres. Alors ça m'a passionné. Je suis très content d'apprendre qu'il y a une délégation française qui est allée au Japon pour se renseigner là-dessus. C'est peu connu tout ça. Mais vous savez, quand on voit les dégâts que font les tremblements de terre, on se dit que c'est le moment de faire un effort d'imagination et d'intelligence. Les Japonais l'ont fait. Ils travaillent sur l'albizia, ils mettent une électrode dans le tronc, une électrode dans une racine, et il y a un transformateur qui met ça en image. Et tant que vous avez une sinusoïde régulière, pas de souci. Mais si ça commence à s'emballer vers le haut ou vers le bas, vous avez quelques heures pour prendre une décision, parce que ça veut dire que les deux plaques tectoniques ont ripé l'une sur l'autre et que vous allez avoir un tremblement de terre. Je trouve ça passionnant. Voilà. Et les plantes, c'est comme ça, sans arrêt.
Est-ce que vous pensez qu'il faut garder l'espoir de voir, on va dire, les comportements de l'espèce humaine dans son ensemble changer vers plus d'humilité et plus d'intelligence dans le sens de compréhension et de symbiose avec notre environnement?
Je garde toujours cet espoir-là, en effet. Je crois que c'est pas exagéré de garder cet espoir. Mais au minimum, faut-il au préalable se débarrasser de toutes les fausses idées qui nous encombrent la tête? Alors, c'est ce qu'a fait Copernic, c'est ce qu'a fait Lamarck et c'est ce qu'a fait Darwin. Et je vois que la botanique est en train de procéder aussi à cette espèce de nettoyage des fausses idées. Je trouve ça passionnant.
Alors, on avait pu lire dans un Science et Vie il y a quelque temps aussi que grâce aux avancées de la physique quantique, on comprenait mieux certains phénomènes qui siègent dans les plantes, notamment la photosynthèse, où on expliquait le rendement optimal, c'est-à-dire 100% de rendement dans une plante à travers le processus de la photosynthèse, alors que nos panneaux solaires plafonnent à 20% et coûtent très cher à fabriquer avec des terres rares qui sont tellement rares aujourd'hui que bientôt il n'y en aura plus. Et ceci par une des particularités quantiques des particules, qui est de pouvoir emprunter la duplicité des chemins, c'est-à-dire que l'excitation du photon sur la plante, au lieu d'aller du point A au point B par un des chemins possibles, emprunte tous les chemins à la fois. Ce serait la clé de ce rendement parfait de la photosynthèse. Là aussi, les plantes nous pourraient nous enseigner à fabriquer des panneaux photovoltaïques avec des rendements intéressants.
J'ai appris en effet que la physique quantique avait fait progresser les derniers secteurs encore pas très clair du processus de photosynthèse. Je voudrais rappeler que c'est l'équation chimique la plus importante de la Terre. Nous ne serions pas là sans la photosynthèse, c'est tout à fait évident. Il n'y aurait pas de biodiversité. Ce n'est pas inutile de se demander ce que nous deviendrions, nous autres êtres humains, si nous faisions disparaître la biodiversité. Qu'est-ce qu'on mangerait ? Ce n'est pas compliqué. On n'aurait plus que de l'eau salée. tout le reste, ça provient de la biodiversité. Alors, je crois qu'il serait temps de se réveiller, mais je suis effrayé, effondré par la bêtise de nos politiques, quel que soit leur bord. Ils n'ont rien compris à cette nécessité urgente de travailler pour le maintien de ce qui nous reste. Ça leur vient pas à l'esprit. Je pense qu'on leur a pas appris ça dans leur école, dans leur ENA. Et donc, ils le savent pas. Ils pourraient se renseigner. Ils le font pas.
Alors, il y a aussi une question qu'on abordera tout à l'heure en toute fin d'émission, c'est celle des pollutions liées aux explorations ou à l'exploitation dans d'autres pays des gaz de schiste qui font beaucoup parler d'eux. Les techniques employées d'hydrofracturation et la toxicité des fluides utilisés dans ce type d'opération impactent directement les sols, les plantes, etc. Est-ce que là encore, on ne fait pas fausse route en essayant d'exploiter des gisements quasiment inexploitables, sauf à tout empoisonner tout autour. On voit bien que l'opinion publique américaine a fait machine arrière. Hein. Pendant 10 premières années, ils étaient tout contents d'avoir des sous, du gaz. Et puis maintenant, les derniers référendums dans certains États, les gens en veulent plus parce que mais maintenant, ils ont le désastre sous leurs pieds. Plutôt que, effectivement, d'investir pour... là, je parlais de la rentabilité optimale de la photosynthèse en termes d'énergie solaire. Oui. Est-ce qu'on fait pas fausse route finalement à courir après des illusions?
Écoutez, j'ai sur cette question un point de vue un peu plus nuancé que vous apparemment. Je crois en effet que nous devrions investir dans une utilisation optimale de la photosynthèse, à la limite qu'elle travaille pour nous au lieu de travailler pour la plante et ensuite que nous utilisions la plante. Je pense qu'on pourrait imaginer un court-circuit qui mettrait directement à notre disposition l'énergie chimique produite par la photosynthèse. Bon. Concernant le gaz de schiste, si ça ne vous embête pas, je ne prendrai pas parti parce que c'est un problème que je ne connais pas. Il faut noter que c'est constant dans notre histoire humaine. Chaque fois qu'il y a un progrès, il y a des gens qui sont contre et qui vont dire « Oh, c'est très, très dangereux ». Vous savez, quand les premiers trains ont roulé, on a dit « Mais on va perdre le cerveau par le trou qui est derrière ». Enfin.
Oui, il y avait aussi une loi en Grande-Bretagne au tout début de l'automobile où on obligeait les possesseurs d'automobiles à avoir un marcheur, un piéton qui marchait devant la voiture pour prévenir que la voiture arrivait. Donc c'était
voilà, chaque progrès soulève des réactions comme ça. Mmh. Excusez-moi, mais les réactions, c'est réactionnaire. Mmh. Alors, je ne suis pas partisan du gaz de schiste, quel qu'en soit le prix. Mais supposer qu'on mette à jour, qu'on mette au point une technique d'extraction qui ne nuise à rien et à personne, alors pourquoi pas ?
Oui.
Il est évident que pour l'instant, on n'y est pas.
On en est très, très loin.
On en est très, très loin. Mais ce n'est pas une raison pour faire une croix sur cette ressource-là. Mm-hmm. Il me semble que si c'était bien extrait, on pourrait avoir là une ressource énergétique importante qui relâcherait la pression sur d'autres ressources. Mm-hmm.
Le rôle du travail aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup de domaines, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est faire changer les mentalités, les états d'esprit. À ce titre, votre travail avec Luc Jacquet et l'association Wild Touch sur la série La Forêt des Pluies constitue un document d'information pédagogique important.
Ce film n'est pas fini. Hein. Je voudrais dire à vos auditeurs que...
Le feuilleton est en ligne. On voit au fur et à mesure des petits éléments sur le site de l'association.
Oui, c'est exact. Wildtouch.org. Mm-hmm. Il sort en novembre 2013.
D'accord. Voilà. Donc c'est un travail en cours.
Le tournage est terminé, le montage est commencé, et là je ne m'en occupe pas parce que je ne suis pas du tout du métier, c'est un vrai métier, mais j'ai beaucoup participé au tournage en Afrique et en Amérique du Sud. Ouais. Mm-hmm.
Aujourd'hui c'est vraiment finalement une partie, un vrai travail à faire, peut-être un des plus importants, de sensibiliser les gens et de poursuivre ce travail de pédagogie.
Écoutez, moi, ma spécialité, c'est les forêts équatoriales. Mmh. C'est le sommet de la biodiversité mondiale. Je me suis engueulé il n'y a pas très longtemps avec des océanographes qui prétendaient que les océans contenaient 80% de la biodiversité terrestre. Pourquoi ils disent ça ? C'est parce que la surface maritime, c'est 80% de la surface terrestre. Alors, ça ne m'a pas plu, mais je n'avais pas les arguments pour répondre. J'ai contacté quelques amis océanographes qui ils ont discuté entre eux. La réalité, elle est celle-là. 15% pour les océans et tout le reste, c'est pour les terres émergées. Et dans les terres émergées, le sommet de la biodiversité mondiale, c'est la forêt équatoriale et même très précisément la canopée de cette forêt parce qu'en bas, c'est trop sombre et il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent pousser. Mmh. Donc voilà, il faut se battre pour cette réserve de biodiversité. Nous en faisons partie.
Voilà, et on aurait tort de l'oublier ou de l'ignorer.
Mais c'est que tout le monde l'oublie. Attendez, moi je tombe sur des trucs scandaleux. J'étais dans un chantier forestier au Gabon, Rougier pour ne pas le citer. Eh bien, ce type-là, il reçoit des aides du gouvernement français via l'Agence française du développement. Ça veut dire qu'une partie de nos impôts sert à déforester l'Afrique. Mmh. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis ? Voilà.
Mmh. La réponse aurait bien été celle qu'on s'imagine. Je rappelle qu'on peut retrouver justement pas mal de documents sur la forêt des pluies sur le site de l'association Wild Touch, www.wild-touch.org. Francis Allais, on vous remercie d'être venu dans les studios de Divergence. Et puis, on souhaite que l'année 2013 soit une année de prise de conscience pour les gens.
Oui, oui.
Merci.
Je vous en prie. There was a time when great men sat under a noble tree to give their whole life a future. Their wisdom was plentiful, as was experience. Company with their advisors, each problem was resolved. Each problem was resolved. The novel was resolved by one thing, by the power of their own culture.
Nos ancêtres africains pour régler tous les problèmes de la vie, tous les problèmes quotidiens, là où les vieux s'asseyaient pour discuter, balayés par une autre démocratie, une autre forme de politique qui a fait ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Voyez la Côte d'Ivoire ce soir. The noble tree. Quand mon café, quand il m'a coulé, tout comme
Le gaz de schiste est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, qui en a fait couler l'année dernière, qui en fera couler sans doute cette année. Claude-Lise Cabrol, représentante du collectif Littoral, le gaz de schiste non merci, on l'a joint hier au téléphone.
On est au téléphone avec Claude-Lise Cabrol, bonjour et puis meilleurs vœux.
Bonjour, meilleurs vœux à vous aussi pour une année sans schiste.
Voilà, pour une année sans schiste, enfin je sais pas, le schiste il a sa place, il est là, mais on est là évidemment pour parler du gaz de schiste, dossier qui depuis, hélas, plusieurs années maintenant, commence à vraiment faire parler de lui dans l'Hexagone, puisqu'il y a quand même 20 ans d'expérience assez néfaste outre-Atlantique. On s'était vu au début de l'année dernière pour parler de ce qui se passait en région. On rappelle que vous êtes notre correspondante pour le collectif Littoral Gaz de Schiste Non Merci, qui envoyait un communiqué ces jours-ci pour souhaiter la bonne année à tous les gens qui veulent une année sans gaz de schiste pour l'instant, et puis en soulignant les victoires remportées dans l'année 2012, qu'il s'agisse dans le Var, le Gard, l'Ardèche, l'Aquitaine, des collectifs citoyens qui tout au long de l'année et puis partout en France abordent 2013 avec détermination et vigilance et l'espoir de faire entendre la voix de la raison. Un travail des élus héraultés qui est salué aussi par le collectif, des élus qui sont, selon le communiqué, de plus en plus nombreux à s'informer objectivement et à s'opposer éventuellement à la perspective du démarrage des travaux de prospection. Et puis, le bilan de l'année 2012 au niveau des collectifs, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Ou est-ce que, de toute façon, la bataille du pot de terre contre le pot de fer va se poursuivre?
Oui, mais l'année, elle a été très encourageante parce que même si on continue à faire un travail de fourmi sur le terrain face à la machine de guerre médiatique qu'il y a face à nous, je pense que dès lors qu'on met sur la table le bilan réel de l'industrie des gaz de schiste ailleurs dans le monde et notamment aux États-Unis, il n'y a rien qui tienne en face, il n'y a aucun argument qui soit défendable. Donc à chaque fois qu'on a pu faire ce travail-là d'information, mais écoutez, en face à nous, on a des gens qui seraient soit des citoyens ou des élus qui se mobilisent, puisque en gros la question qui est posée, c'est la survie de nos territoires, hein. La survie économique, la survie environnementale, la survie sanitaire des populations qui sont concernées. Donc on a vraiment un bilan qui nous semble, nous, très encourageant, puisque les collectifs non seulement se multiplient, mais les arrêtés pris par les élus, donc qui prennent la responsabilité de s'opposer à ça, se multiplient aussi. Et puis moi je tiens à souligner, comme vous l'avez rappelé, c'est très beau point marqué dans le Var où le permis a été annulé, dans le Gard et l'Ardèche où les élus ont obtenu avec les citoyens qu'on suspende les travaux. Il y a un permis à Nîmes qui a été aussi annulé. Enfin bref, on sent quand même qu'on marque des points très concrètement sur le terrain, même si dans les médias nationaux, les industriels crient victoire et continuent à dire qu'on ne peut pas s'en passer. On voit bien que sur le terrain, la réalité, elle est très différente. Il y a raison de dire que le schiste, il avait toute sa place ici. C'est une bonne image. Le schiste, par exemple, chez nous, dans l'Hérault, c'est tout un terroir des schistes. Et on y tient beaucoup. Et ça se retrouve dans le vin. Et ça, c'est le schiste qu'on aime et qu'on a envie de continuer à garder. C'est notre identité. Et je signale une série peut-être très, très ironique et en même temps très offensive. Le château de la Liquière qui a sorti un rosé pétillant qui s'appelle l'unique gaz de schiste. Et je pense que ça résume un petit peu le combat, c'est le fait de dire conservons notre identité et donc revendiquons aussi la défense active de notre territoire. Sur le plan, en tout cas, de l'année qui vient, il y a un débat qui va être lancé en région sur la transition énergétique. On sera présent parce que nous, notre propos, c'est de dire il faut élargir les termes du débat. C'est pas gaz de schiste ou rien. Il y a énormément d'initiatives qui marchent aujourd'hui en France et dans le monde. Et il n'y a pas de raison de nous en priver au nom du lobbying qui est mené aujourd'hui par les industriels du pétrole et du gaz.
Alors justement, par rapport à ça, vous parliez de vin. C'est à Saint-Chinian, au lieu de la production de vin, j'allais dire viticole, mais plutôt vigneronne, qu'aura lieu ce vendredi 11 janvier à 19h à la salle de l'Abbatiale, une réunion en présence du sénateur Robert Tropeano. C'est une réunion qui appelle, on va dire, tous ceux qui sont intéressés, concernés ou qui sont pas trop loin à la rejoindre.
oui, là encore, à venir au moins s'informer, partager avec nous d'ailleurs les vins du cru, parce que c'est dommage de se priver des bons moments de la vie aussi. Et puis, parce qu'il se trouve que le sénateur Tropeano mène de longue date aussi un travail de mobilisation de tous les gouvernements successifs et de tous les ministres de l'écologie qui sont succédés pour leur demander l'annulation. Et en suivant son exemple, on a de plus en plus d'élus qui ont écrit aussi au président de la République pour demander l'annulation de notre permis. Donc c'était que justice à un moment donné de pouvoir être dans la ville où il y a quand même un foyer de résistance assez marquant et de proposer à ceux qui auraient envie en tout cas de discuter de ça, de venir avec nous ce soir-là. Et puis débattons, c'est jamais que très sain de débattre.
Absolument. Avant de se quitter, il y a une information assez intéressante, puisque on l'a vu hein, l'année dernière, quand le président avait dit il n'y aura pas de gaz de schiste, etc. Bon, c'était un petit peu une annonce, un petit peu, à mettre à interpréter, en tout cas, puisqu'il annonçait l'abrogation de 7 permis d'exploration, alors qu'il y en avait encore plus de 60 qui traînaient dans les tiroirs. Manifestement, le bilan 2012 que vous avez dressé, fait état quand même de certains succès des collectifs citoyens, peut-être encouragé en tout cas par l'annonce qui avait été perçue comme un signe positif au niveau national par le président l'année dernière. Néanmoins, on avait entendu le gouvernement dire que le problème, la pierre d'achoppement, c'était la technologie employée pour l'hydrofracturation, technologie dont on peut lire sur le blog qu'elle fait aussi appel à des charges creuses qui ont pour objectif de fracturer la roche donc à des explosifs durcis entre guillemets avec des matériaux radioactifs un petit peu comme les mines anti-char, etc. C'est une nouvelle pierre à l'édifice de la contestation des technologies employées pour l'hydrofracturation.
Oui, mais on va dire les gaz de schiste, pour les résumer, on va dire c'est la technologie poubelle, quoi. On y met tout ce qu'il y a de pire et on mélange tout ça et on a les gaz de schiste. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien qui tienne la route dans cette technologie, c'est-à-dire que ni les méthodes de fracturation, alors qu'elles s'appellent fracturation hydraulique, fracturation au propane, électrofracturation, enfin bref, ni les techniques elles-mêmes, ni la maîtrise des risques n'est effective. Donc c'est vrai que c'est une technologie dont on sait aujourd'hui aux États-Unis, on voit que la c'est une bulle financière qui est en train d'éclater, puisque les industriels gaziers sont en train de soit de faire faillite, soit affichent des pertes mais énormes dans les bilans. On voit que c'est quelque chose qui sur le plan financier n'est pas rentable, sur le plan de l'exploitation n'est pas franchement non plus très convaincant, et sur le plan environnemental et sanitaire est une catastrophe majeure. Donc c'est aujourd'hui ce qui se démontre aux États-Unis. Il y a eu, là en fin d'année, on l'a passé sous silence, mais il y a eu des référendums locaux qui ont été organisés sur cette question. Et alors qu'on dépeint les Américains comme très friands du gaz de schiste, hyper heureux de ça, du développement économique que ça procure, de l'emploi local, etc., eh bien localement, les gens ont très majoritairement rejeté cette exploitation. Il y a carrément maintenant des États entiers qui refusent les gaz de schiste. Enfin, on est vraiment à un tournant, on est à la fin de l'âge d'or, à la fin des illusions. Et le prix à payer maintenant est très très lourd. Et je pense que c'est un petit peu aujourd'hui le pourquoi on est un peu agacé du pseudo-débat qu'il y a en France, parce que le gouvernement Hollande, comme celui de Nicolas Sarkozy précédemment, tergiverse, annonce la fin des gaz de schiste tout en ouvrant la porte à des technologies entre guillemets alternatives, enfin bref, ne sait sur quel pied danser. Bon, il suffit, comme je le disais, hein, vraiment je me répète, mais il suffit de faire un bilan très rapide de ce qu'on voit depuis 10 ans aux États-Unis, et ça suffit largement à se dire que c'est pas comme ça, que c'est pas en regardant en arrière, puisque c'est vraiment des industries moyenâgeuses dont on parle. On est vraiment sur cette poubelle technologique dont je parlais. C'est pas comme ça qu'on va assurer l'avenir énergétique de la France. Moi, je tiens juste à souligner que même Delphine Bateau elle-même, récemment, chez Jean-Jacques Bourdin, l'a reconnu le gaz de schiste, même si on ne parle pas des techniques employées, a un bilan en matière de réchauffement climatique qui est pire que celui du charbon. Aujourd'hui, il faut qu'on se tourne vers l'avenir en France. Nous, il faut arrêter de perdre du temps. On perd vraiment une avance compétitive énorme à alimenter des pseudo-débats autour de ces questions-là.
Mmh. Espérons que l'année 2013 sera justement l'année d'un débat intelligent sur cette question. On rappelle qu'on peut retrouver l'actualité sur http://stopgaz34.canalblog.com. On retrouve sur divergence-fm.org aussi le lien vers la page Facebook ou encore le numéro d'alerte si jamais vous voyez des camions sismiques se balader ou des convois bizarres, le 06 38 35 87 98 06 38 35 87 98 Claude-Lise, on vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis on se tiendra au courant tout au long de l'année des évolutions de ce débat qui, souhaitons-le, sera enterré avec l'année.
Bon, et merci à vous. Et puis venez tous fêter la nouvelle année à Saint-Simon vendredi. Et puis longue vie aussi à Divergence FM.
Merci beaucoup. Je rappelle, c'est vendredi 11 janvier à 19h à la salle de l'Abbatiale de Saint-Chinian, réunion d'information du public en présence du sénateur Robert Tropeano. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est ainsi que se referme cette auberge espagnole. Je remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission. Gilles, je vous salue. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera du 14e festival Les Tradivernales à Sommières les 18 et 19 janvier. Et puis où Simon Morin nous fera un retour sur le festival de flamenco à Nîmes. Une très belle après-midi à l'écoute des programmes de Divergence FM.